Bonjour à tous. Merci de me répondre. On continue notre petite série de rentrées. Si vous êtes là pour la première fois ou si vous êtes là pour la première fois de ce mois de septembre, je vous rappelle ce qu'on est en train de faire ensemble. On est en train de survoler, de se rappeler de notre vision d'église. Ici, à l'église évangélique Action Biblique de la Servette, on a choisi, on a envie d'emprunter cette direction-là. On veut être un cœur pour l'évangile au cœur de Genève. Il y a deux dimensions dans cette déclaration. Premièrement, on veut être un cœur pour l'évangile. Ça veut dire qu'on veut être cette église vivante, cet organisme vivant qui comprend toujours mieux l'évangile et qui grandit dans cette compréhension de l'évangile. Alors, si vous n'êtes pas trop habitué à fréquenter une église évangélique, vous dites, ok, évangile, évangélique, ça fait du sens pour moi, mais franchement, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Hein. Dans le langage populaire actuel, le mot évangile apparaît quand même assez rarement. Alors, je vous explique. L'évangile, ça commence avec une mauvaise nouvelle, mais l'évangile, c'est essentiellement une bonne nouvelle. D'ailleurs, en fait, c'est la signification de ce mot en grec, évangile, ça signifie la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est pécheur, séparé de Dieu. Il y a un gouffre infranchissable entre nous, les créatures, et lui, le Créateur. Nous sommes pécheurs, il est saint. Nous sommes imparfait, il est parfait. Nous nous sommes rebellés contre lui et lui, il nous avait créés. Il était notre propriétaire légitime. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Celui pour qui nous devrions naturellement vivre, celui qui fait battre notre cœur, celui qui a mis de l'air pour que nous puissions respirer, celui qui est la source de la vie, nous est inaccessible à cause de notre péché. Ce gouffre infranchissable, on ne peut pas le dépasser. On ne peut pas sauter par-dessus ce gouffre. C'est impossible. Le péché qui nous colle à la peau rend ce gouffre infranchissable. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu lui-même a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus est venu sur terre. Et il a payé la rançon. Il a payé la sentence que méritait notre péché. Il a payé la colère de Dieu, le prix de la colère de Dieu à notre place. Il est venu sur terre, il a mené cette vie parfaite qu'on aurait dû mener si on avait été fidèle à Dieu. Et il est mort injustement sur une croix. Il est mort pour que ce fossé infranchissable soit comblé, pour qu'on puisse retrouver une relation restaurée avec celui qui est notre Créateur, celui qui est notre Père. Et grâce à ça, et par le moyen de la foi en Jésus-Christ, si nous nous confions en lui, si nous plaçons notre foi en lui, nous pouvons vivre cette réconciliation. Ça, c'est l'Évangile. Et on veut avoir un cœur pour l'Évangile. Ici, à l'Action Biblique de la Servette, l'Église évangélique Action Biblique de la Servette, on veut avoir ce cœur pour l'Évangile. Mais en même temps, il y a le deuxième volet, hein. On veut être au cœur de Genève. On ne veut pas être juste une église centrée sur nous-mêmes. On ne veut pas être juste des croyants isolés, là, et puis on est bien entre nous. Non, on veut être au cœur de Genève. On veut être visible. On veut que des hommes et des femmes puissent entendre ce message de l'Évangile par notre présence dans cette ville, par tout ce qu'on entreprend, que nos collègues, nos familles, toutes ces personnes autour de nous puissent entendre ce message de l'Évangile. Ça, c'est notre ligne directrice, on pourrait dire. Et puis, pour aller dans ce sens-là, on a décidé qu'on allait se mettre en mouvement dans quatre directions, selon quatre axes définis. Premièrement, on a décidé, l'année passée, ça s'est produit, qu'on voulait progresser dans notre manière d'accueillir les personnes. Et si vous étiez là il y a 15 jours, on a parlé de ce thème-là, on a parlé du thème de l'accueil. Deuxièmement, et ça c'est ce dont on a parlé l'année passée, on a dit qu'on voulait progresser dans notre manière personnelle de vivre la vie chrétienne. Ça s'appelle la piété. On a dit qu'on voulait progresser, avoir une relation toujours plus profonde et toujours plus vraie avec Dieu et les uns avec les autres. Aujourd'hui, on voit le troisième axe, c'est le thème de l'édification. Et d'ailleurs, on peut peut-être mettre le slide là. Voilà, magnifique. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça, de l'édification. L'Église, ce n'est pas une institution. L'Église, ce n'est pas un truc, ça a été démarré à un moment donné et ça ne bouge plus pour l'éternité. L'Église, c'est un peu comme un organisme vivant. C'est un peu comme un bâtiment en cours de construction. Ça fait 2000 ans qu'il est en cours de construction. C'est de là qu'on a le mot édification, hein. L'Église, c'est un édifice, c'est un bâtiment qui est en train de se construire. C'est quelque chose de vivant qui bouge et qui progresse au fur et à mesure que les décennies, les siècles passent. Alors vous allez me dire, peut-être il y a un petit peu de recouvrement, vous allez le voir, hein, entre le thème de la piété, qu'est-ce qu'on vit intérieurement, personnellement, et comment l'Église grandit. Ces deux thèmes, ils sont un petit peu liés, mais vous verrez qu'ils sont quand même bien différents. On a parfois l'impression que la vie chrétienne, si ça c'est la durée de notre vie, la vie chrétienne, ça ressemble à ça. Parfois on a cette impression-là. Hein. On est pécheur, puis un jour, paf, on est réconcilié avec Dieu. Et puis ensuite, on vit une vie parfaite. Il n'y a aucun problème dans la vie chrétienne, tout est impeccable. Parfois, on a cette vision-là. Mais alors, d'une certaine façon, cette vision-là, elle est juste. Aux yeux de Dieu, c'est exactement ce qui se passe. On est pécheur, on est séparé de lui, et à un instant précis, que vous vous souveniez de cet instant ou que vous ne vous en souveniez pas, peu importe, il y a quand même un moment précis où le pont s'est fait, le passage s'est ouvert. On a été réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, notre péché a été transféré sur Christ et la justice de Jésus nous a été imputée. Et du coup, ça se passe exactement de cette manière-là. Hein. C'est vraiment une marche. Mais notre vie terrestre, telle que nous la vivons, est sensiblement différente. Notre vie terrestre, elle suit plutôt, on pourrait dire, à partir du moment de notre conversion, à partir de ce point-là, elle va monter progressivement. D'un point de vue personnel, on appelle ça la sanctification, on va progresser, on va avancer. Mais d'un point de vue un peu communautaire, on appelle ça plutôt l'édification. On grandit ensemble, on avance ensemble. Enfin, on va voir ce que ça signifie exactement. Et j'aimerais vous donner un petit exemple qui m'a marqué la semaine dernière. Un exemple qui nous montre qu'on quel que soit notre état d'avancement dans la vie chrétienne, on est toujours appelé à grandir et à progresser. La semaine dernière, c'était mardi après-midi, on était chez Marie-Claude. Marie-Claude, si vous ne la connaissez pas, c'est celle qui faisait l'accueil à l'entrée. C'est celle qui vous a donné les petites feuilles. On était chez elle avec plusieurs personnes. Plusieurs personnes assez âgées. Et on a fait un petit tour de table. Chacun pouvait donner des sujets de prière pour lui-même. Et nombre de ces personnes ont demandé qu'on prie pour leur progression, pour qu'elles puissent encore grandir. Et j'ai été touché par ça. Hein. Des gens qui ont 70 ans, 80 ans, qui encore à cet âge-là demandent de pouvoir grandir. Elles sentent ce besoin de pouvoir encore progresser, encore et être édifiées. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui dure toute la vie. Alors, à la Servette, on veut être une église qui s'édifie, une église qui grandit. Mais qu'est-ce que ça signifie? Quel est le sens de cette édification? Dans quelle direction on doit grandir? Quels sont les moyens dont nous disposons pour grandir? Et quelles seront les conséquences de cette croissance? C'est un petit peu les questions qu'on va se poser ce matin. On va lire quelques versets, un petit extrait en fait dans une lettre qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'épître qu'on appelle aux Éphésiens. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Paul qui écrit une lettre à une église dans la ville d'Éphèse, dans la Turquie actuelle. Et il écrit à cette église et il leur donne plein de conseils sur comment vivre la vie d'église. En fait, c'est une lettre qui est hyper intéressante parce que, probablement elle ne s'adressait pas à une église unique, mais elle s'adressait à un groupe d'églises. Du coup, Paul, il nous montre un petit peu un standard ici, il nous montre un peu comment on devrait vivre en tant qu'église. Alors, il traite beaucoup de thèmes dans cette lettre, mais on va juste s'arrêter sur quelques versets. Donc c'est dans Éphésiens 4, à partir du verset 11. Avant de lire le texte, j'ai juste essayé de capter le cœur, vraiment le message central de ce texte, et j'ai choisi cette phrase. L'Église doit s'édifier grâce à Jésus par chacun de nous. Et on va voir un peu ces deux axes. C'est Christ qui édifie son Église, mais il utilise chacun de nous pour faire ce travail. Et on va voir plusieurs choses. On va voir quelles sont les ressources de l'édification. On va voir quel est le but de l'édification. On va voir quelles sont les conséquences de l'édification. Et finalement, on va voir comment fonctionne ce processus, ce principe de l'édification. Voilà le texte. Si vous l'avez dans votre Bible, vous pouvez le lire dans votre Bible. Si vous voulez le lire ici à l'écran, vous pouvez aussi le lire ici à l'écran. Vous verrez que le deuxième mot, c'est « lui ». Et là, il s'agit donc de Christ, Jésus-Christ. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On va voir, donc on va essayer de répondre ensemble maintenant à ces quatre questions que j'ai posées plus tôt. Oups. Et voilà, premier élément, donc c'est le verset 11. On voit ici les ressources de l'édification. Vous avez vu, hein, si vous lisez un petit peu ce qui précède, on voit que au moment où Christ monte vers Dieu, il prend avec lui et il accorde à son Église un certain nombre de personnes. Et là, Paul décrit ces quatre personnes. Il dit des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des bergers et enseignants. Quatre types de personnes que Dieu accorde, dont il fait grâce à son Église, et on va voir pourquoi par la suite. Alors il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur ces quatre mots-là. Qu'est-ce que ça signifie, ces quatre groupes de personnes, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers enseignants? On ne va pas pouvoir tout dire sur cette question-là, mais simplement quelques notions. Les apôtres, premièrement. Apôtres, le terme apôtre, en grec, ça signifie ceux qui sont envoyés. Ceux qui sont envoyés, c'était un petit peu des missionnaires, des gens qui allaient quelque part pour implanter des églises, pour permettre à l'évangile de grandir dans une région donnée. Mais en même temps, dans le Nouveau Testament, en fait, pratiquement à chaque fois que le mot apôtre arrive, il est employé dans un sens technique. Il désigne non pas des envoyés de manière générale, mais il désigne des individus précis. Il désigne des gens qui avaient suivi Christ, un petit groupe qui étaient proches de Christ, 12 apôtres en particulier, qui sont mentionnés plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Alors il y avait ces deux significations, hein, le sens technique et puis le sens général. Alors on comprend le sens général et on comprend aussi le sens technique. Moi personnellement, par rapport à ce terme apôtre, je déconseillerais de l'employer aujourd'hui, pour des gens d'aujourd'hui, parce que justement, ça prête à confusion. Entre ce sens technique et ce sens général, il faudrait expliquer tout ça pour que les gens comprennent bien. Et je pense que, assurément, aucun envoyé aujourd'hui ne mériterait le terme d'apôtre dans le sens technique. Ces gens qui avaient suivi Christ, qui avaient entendu l'enseignement de Christ, qui ont écrit les pages du Nouveau Testament, ont reçu une autorité qui n'existe plus aujourd'hui. On n'a plus personne qui a vécu avec Jésus-Christ aujourd'hui. On n'a plus personne qui est appelé à écrire une nouvelle partie du Nouveau Testament aujourd'hui. Donc c'est pour ça que, par prudence, je trouve qu'on ferait bien de ne pas employer ce terme-là aujourd'hui. Mais malgré tout, on comprend la notion des gens qui étaient envoyés pour partager l'Évangile dans une nouvelle région. Les prophètes, deuxième point. Là aussi, c'est un terme qui peut être pris dans deux sens, même dans trois sens, on pourrait dire, de certaine façon. Il y a des prophètes dans l'Ancien Testament, des prophètes qui ont reçu vraiment de Dieu des choses précises qu'ils devaient donner, qu'ils devaient dire, et parfois qu'ils ont écrit pour le peuple d'Israël. Une bonne partie de ces écrits, on les a encore dans notre Bible, hein, dans l'Ancien Testament. Il y a des pages et des pages d'écrits prophétiques dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit aussi des prophètes. Et ils avaient une fonction toute particulière à ce moment-là, parce que le Nouveau Testament, dans les premiers siècles, n'avait pas été encore totalement rédigé, ou en tout cas, il n'avait pas été totalement assemblé. Donc Dieu a permis à des personnes de recevoir une autorité particulière pour enseigner le peuple de Dieu à ce moment-là. Et dans ces deux premiers sens, des prophètes, il n'en existe plus aujourd'hui. On n'a plus de personnes qui sont vraiment à ce point-là revêtu de l'autorité de Dieu. Mais en fait, dans un sens large, un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui écoute ce que Dieu a à dire et qui le transmet au peuple. Et d'une certaine façon, quelqu'un qui lit la Bible aujourd'hui, qui comprend bien le monde autour de lui. Donc d'un côté, il comprend bien la Bible et de l'autre côté, il comprend bien le monde autour de lui. Et il a cette capacité d'appliquer la Bible à la situation présente. D'une certaine façon, il parle de la part de Dieu au peuple. Et d'une certaine façon, il pourrait être appelé un prophète. Là aussi, par prudence, je trouve qu'on ne devrait pas employer le mot de prophète. On comprend la notion, mais je trouve que par prudence, et pour éviter justement une confusion, on ferait bien de ne pas employer ce nom, mais on comprend bien la notion qui est là derrière. Troisième chose, des évangélistes, donc des personnes que Dieu a équipé spécialement pour aller annoncer l'évangile à d'autres, pour que ce message de l'évangile soit compris, pour que des personnes se tournent vers Christ. Bien sûr, d'une certaine façon, tous les chrétiens, on est appelés à annoncer l'évangile, mais Dieu a équipé certains spécialement dans ce but-là. Et puis troisièmement, des bergers enseignants. Alors, moi je ne connais pas le grec, mais les commentateurs nous montrent bien que c'est deux notions qui sont regroupées en grec, donc c'est une seule casquette, on pourrait dire, des bergers enseignants, des gens qui s'occupent des personnes par l'enseignement de la Bible, d'une certaine façon. Donc des gens qui enseignent fidèlement la Bible pour permettre aux personnes de grandir. Dieu accorde ces personnes à son Église. Pourquoi ? Vous avez vu, hein, ça c'est au verset, juste après, au verset 12. Il l'a fait pour former les saints. Donc les saints, ce n'est pas juste un petit groupe, hein, c'est l'ensemble des chrétiens, pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Dieu, il accorde ces personnes-là pour former tous aux tâches du service en vue de l'édification de l'ensemble. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces quatre groupes de personnes? Moi, il y a quelque chose qui me frappe dans ces quatre groupes de personnes. Ce n'est pas des groupes déconnectés les uns des autres, en fait. C'est des groupes qui ont une tâche. Ces quatre groupes, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, puis les bergers enseignants, c'est des personnes qui ont des tâches assez similaires, au fond. C'est des gens qui ont la mission d'enseigner la parole de Dieu. Que ce soit des gens qui sont envoyés quelque part pour implanter des églises ou pour implanter l'évangile, que ce soit des prophètes, que ce soit des évangélistes, ou que ce soit des bergers enseignants, c'est des gens en fait, avec peut-être des accents différents, mais c'est des gens qui enseignent la parole de Dieu. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est des gens qui transmettent, c'est des gens qui s'arrêtent pas, enfin ça s'arrête pas à eux, mais c'est des gens qui veulent que les choses aillent plus loin. Donc c'est des enseignants de la parole qui transmettent la parole. C'est vraiment ça les deux axes qu'on retrouve chez chacun de ces quatre groupes. Des gens qui enseignent la parole et qui transmettent. Et du coup, le centre, ce n'est pas tellement ces personnes-là, le centre de tout ça, c'est plutôt la parole de Dieu elle-même. Ces gens-là, Dieu les accorde, non pas pour les mettre en avant, mais il les accorde pour que l'ensemble de l'Église, au sens large, puisse progresser. C'est un peu comme des canaux. Donc il y a la parole, eux ils sont des canaux qui vont faire véhiculer la parole vers l'ensemble de l'Église. Deuxième point, ici, les versets 12 et 13. Paul nous montre un petit peu quel est le but de l'édification. Je relis simplement ces deux versets. Il l'a fait, donc il a accordé ces individus, Dieu, enfin Christ plutôt, il a accordé ces individus pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quatre éléments ici, hein. Le but de cette édification, donc pourquoi on grandit ? Pour l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, arriver à la maturité d'adulte et arriver à la stature parfaite de Christ. Il y a une certaine logique là-dedans. Pourquoi on est divisé ? T'en parlais tout à l'heure, Philippe. Pourquoi il y a des églises qui se divisent ? Et si vous étudiez un petit peu l'histoire de l'Église, vous verrez que c'est pas anodin. Enfin, c'est arrivé à de nombreuses et de nombreuses reprises. Que ce soit sur le plan mondial ou sur le plan local, l'Église s'est souvent divisée, malheureusement. Ben justement, parce que on n'était pas centré sur la Bible, on n'était pas centré sur la parole. Souvent, il y a d'autres intérêts qui ont prévalu. Et en fait, si on grandissait ensemble, si on grandit ensemble dans une relation toujours plus profonde avec Dieu, ça va aussi, dans le même temps, dans le même mouvement, produire une unité toujours plus forte, toujours plus profonde. Et puis, ça va aussi nous faire grandir dans notre connaissance de Jésus, dans notre connaissance du Fils de Dieu. Et ça va nous faire progresser, nous faire avancer vers cette maturité d'adulte. Et puis, ultimement, l'élément le plus beau dans cette liste, ça va nous faire ressembler toujours plus à Christ. Ça va nous faire avancer vers la stature parfaite de Christ. Là, d'une certaine façon, on a les buts, mais c'est presque une définition. Qu'est-ce que c'est l'édification ? C'est ça, c'est progresser vers la stature parfaite de Christ. C'est ça l'édification. C'est pas juste acquérir de nouvelles connaissances, c'est pas non plus vivre de nouvelles expériences. Toutes ces choses-là, elles peuvent en faire partie. Mais le but, c'est vraiment d'être transformé à l'image de Christ, encore et toujours. C'est ça le sens de l'édification. On passe au troisième point. Les conséquences. Quelles sont les conséquences de cette édification ? Donc ça, c'est les versets 14 et 15. Je vous les relis, hein. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Si on vit ce processus d'édification, si on grandit, si on avance ensemble, on ne sera plus des petits-enfants. On ne sera plus tenté par telle ou telle nouveauté, telle ou telle nouvelle idée ou quelque chose comme ça. On aura tous les yeux rivés, fixés sur Jésus-Christ. On ne sera plus ballotté et emporté par tout vent de doctrine. J'aime bien cette image, hein. On sera pas comme cette girouette qui va dans tous les sens, dans toutes les directions, mais on ira tous dans le même sens, dans le sens de Jésus-Christ. Et puis, il y a cette question de l'amour. On sera capable de se dire la vérité dans l'amour. Vous avez vu, hein ? C'est en disant la vérité dans l'amour que nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. On a besoin de cela, on a besoin d'apprendre à se dire la vérité, mais à se dire la vérité dans l'amour. Parfois, quand on réfléchit à l'unité de l'Église, on est face à une tension. Est-ce qu'on veut plutôt favoriser la vérité ou est-ce qu'on veut plutôt favoriser l'unité ? Parce qu'on peut être tenté de faire des compromis pour pouvoir maintenir l'unité, ou alors on peut être tenté de tenir coûte que coûte à la vérité. Et là, je pense qu'on a un bon exemple. Enfin, on a une bonne manière d'articuler ces deux notions. C'est en se disant la vérité dans l'amour qu'on grandit tous, à tout point de vue, vers celui qui est la tête, Christ. On a besoin d'apprendre à se dire les uns aux autres la vérité, mais de se le dire dans l'amour. De progresser en cela, c'est ça qui va nous faire avancer, progresser dans l'édification. Dernier point maintenant, le fonctionnement. Comment elle fonctionne, cette édification? Je relis le verset 16. Hein. C'est de lui, donc de qui? De Christ, hein, que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Il y a comme un cycle, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est de lui, donc c'est Christ qui fait cette œuvre d'édification, c'est lui qui édifie son Église. Personne d'autre peut prétendre à ce rôle-là. Mais en même temps, chacune de ses parties va faire son office. Et puis le corps lui-même va s'édifier. Vous avez vu, hein? Il s'édifie lui-même. Il y a une espèce d'auto-édification du corps. Le corps s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, à la fois, c'est Christ qui fait l'œuvre, mais à la fois, on est tous appelés à y participer. Sous les ordres de Christ, on est tous appelés à participer à cette œuvre-là d'édification. On prend un peu de recul, maintenant. Comment ça fonctionne, en fait? C'est quoi l'édification dans l'Église? Donc on est d'accord, pour s'édifier les uns les autres, il faut que chacun de nous progresse vers la stature parfaite de Christ. Ça, c'est la base. Maintenant, comment ça marche? Et j'aimerais commencer par peut-être une mauvaise compréhension qu'on a parfois. On a parfois cette idée que l'Église, c'est une institution. L'Église, c'est quelque chose d'extérieur à moi. Et en fait, voilà, moi je suis ici, là il y a l'Église, une espèce d'entité extérieure, et puis le processus d'édification il se fait comme ça. Ça veut dire que c'est le job de l'Église, c'est sa tâche de m'édifier, elle doit proposer des choses, proposer des activités pour me permettre de grandir. Donc ça, vous l'avez compris, c'est une mauvaise compréhension, d'après le texte qu'on vient de lire, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'est l'édification. J'ai essayé de rendre par un schéma, j'espère que ça va être compréhensible, un petit peu les éléments qui sont dans ce texte-là. Voilà comment ça fonctionne, l'édification. On a des apôtres, prophètes, évangélistes, bergers, enseignants. On a dit, en fait, ces quatre groupes d'individus, c'est juste des canaux qui permettent au peuple de Dieu d'être enseigné par la Bible, par Dieu lui-même. Donc on a ces quatre groupe de personnes, des enseignants en quelque sorte. Et puis on a toutes les autres personnes de l'Église qui sont là autour. Alors comment fonctionne l'édification? L'édification en fait, c'est ces quatre groupes de personnes qui vont enseigner les autres. Mais vous avez vu que j'ai mis des flèches dans les deux sens. Parce que vous avez compris que ces individus-là, ils édifient les autres pour les préparer aux tâches du service en vue de l'édification de l'ensemble. Ce n'est pas unidirectionnel, cette question de l'édification. Bien sûr que Dieu nous fait la grâce, il nous accorde des personnes qui nous enseignent la Bible. Mais en fait, l'édification, elle va dans tous les sens. On est tous appelés à s'encourager et à s'aider à se dire la vérité dans l'amour pour progresser vers la stature parfaite de Christ. Mais il y a encore une dimension qui manque. Ce n'est pas juste l'axe entre ces personnes et les autres gens de l'Église. En fait, l'édification, ça va dans tous les sens. C'est chacun qui édifie un autre, deux autres, trois autres. C'est chacun qui prend du temps et, ou qui encourage ou d'une façon ou d'une autre. Bon, je vous avouerai qu'à un moment donné, ça devenait illisible si je mettais plus de flèches que ça. Mais on aurait pu mettre vraiment des flèches dans tous les sens. Puis bon, si ça prenait du temps de mettre toutes ces flèches, je ne vous raconte pas le temps que ça m'a pris de faire coïncider parfaitement chaque pointe de flèche avec le... Enfin voilà, bon bref. Mais vous comprenez l'image. Ça va dans tous les sens, l'édification. Bien sûr, il y a une direction globale. Dieu accorde des dons à certaines personnes, mais chacun édifie l'ensemble. Chacun a vraiment son rôle à jouer, sa mission à tenir. Et puis, un dernier élément, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui, on pourrait dire, qui est le grand chef de ce processus. C'est lui qui conduit ce processus de manière générale. En fait, bien souvent, ce processus-là, on essaie de créer des activités, on essaie de faire des choses pour qu'il se déroule, pour qu'il ait lieu, ce processus. Mais bien souvent, on se rend compte que Christ ne nous attend pas. Lui, il fait l'œuvre d'édification dans son Église. Et il utilise peut-être des petits encouragements, peut-être des choses spontanées, des choses individuelles, pour que ce processus puisse avoir lieu. On arrive aux applications. Comment on veut vivre maintenant cette édification dans notre vie d'église? Je crois qu'en fait, il y a deux volets. Première chose, il y a tout ce qu'on vit de manière informelle. Et on ne doit pas l'oublier. Vous invitez un frère ou une sœur à manger. Vous envoyez un SMS parce que vous savez que quelqu'un est peut-être découragé. On écrit une carte pour un anniversaire. On lit la Bible avec quelqu'un. On prie avec quelqu'un, etc., etc., etc. Ça, c'est la partie informelle. Et ça, on doit la faire fructifier toujours plus. On veut vivre des relations qui soient vraies, des relations qui soient belles. On veut s'édifier les uns les autres au quotidien. Mais il y a l'autre volet. C'est la partie un peu plus formelle. Et là, il faut dire la vérité. On est des êtres humains. Et on a besoin d'avoir un cadre parfois, on a besoin d'avoir des rendez-vous par moment. Et c'est important qu'on ait ces activités qui se mettent en place pour permettre l'édification. Alors j'ai listé quelques activités qu'on peut vivre les uns avec les autres pour l'édification. Premièrement, pour tous, y a le culte. Hein. On est là tous les uns avec les autres, on s'édifie les uns les autres. On veut progresser par les chants, par la prédication, par toutes ces choses-là. On veut progresser dans vers la stature parfaite de Christ. Mais d'autres choses, il y a les groupes de maison, par exemple. Vous savez que le mois prochain, on va commencer des groupes de maison. Vous savez que on veut vraiment dynamiser la vie du groupe de maison. On veut que les uns et les autres, on ait l'occasion d'avoir ces liens familiaux dans des groupes plus petits. Parce qu'on constate que le dimanche matin, c'est difficile d'avoir des relations profondes les uns avec les autres. Du coup, on aimerait pallier cela par des relations fortes dans les groupes de maison. Et si vous désirez encore faire partie d'un groupe de maison, il y a là derrière sur le comptoir, il y a plusieurs listes. Vous pouvez regarder, vous pouvez vous inscrire à l'un ou l'autre de ces groupes. À partir de la deuxième semaine du mois d'octobre, ça va démarrer. Régulièrement, on va se voir et on va prendre le temps de s'édifier les uns les autres. Il y a des réunions de prière. La semaine qui vient, tout de suite, là, il y aura même une semaine de jeûne et de prière. Donc, une semaine de prière dans laquelle on va avoir l'occasion de s'édifier les uns les autres. Il va y avoir des études bibliques qui vont commencer d'ici quelques semaines. On a un groupe d'hommes, on a un groupe de femmes dans cette église. Encore des moyens d'édification. Maintenant, il y a des moyens d'édification plus ciblés. Il y a pour les jeunes, on a un groupe JAB Junior pour les jeunes entre 12 et 18 ans. C'est les samedis soirs, une semaine sur deux. Et puis, il y a ce qu'on appelle la JAB Senior pour les jeunes de 18 à 25 ans, voire un peu plus. Parfois, il y en a qui viennent même après 25 ans. Voilà, des moyens d'édification pour des tranches d'âge spécifiques. Pour les enfants, on veut vraiment aussi proposer beaucoup de choses pour les enfants. On a l'école du dimanche. Chaque dimanche, il y a des personnes qui enseignent les enfants à l'étage en dessous de nous, là, et qui préparent un programme plus adapté à leur âge. C'est génial ce que ces gens-là font. On est encouragé et émerveillé de voir ce que Dieu fait dans le cœur des enfants. On a aussi de temps en temps des clubs d'enfants, des rendez-vous spéciaux dans l'année où il y a des activités pour les enfants qui sont prévues. Donc voilà, un peu ces moyens, vous vous souvenez, hein, dans le volet des activités formelles, moyens d'évangélisation. Je conclue avec un avertissement. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Hein. L'édification, ce n'est pas une progression dans la connaissance. Bien sûr que la connaissance, ça fait partie. Bien sûr que plus on va connaître la Bible, plus on va progresser dans l'édification. Mais c'est seulement un axe de l'édification. L'édification, c'est non plus pas le fait de vivre de nouvelles expériences. Bien sûr, on vit des choses. Bien sûr, on a des moments où on vit des choses fortes avec Dieu. Et bien sûr que ça nous fait progresser. Mais l'édification, c'est plus que ça. L'édification, c'est quelque chose qui englobe notre être tout entier. Notre Église tout entière. Toutes les facettes de notre être et toutes les facettes de notre Église doivent avancer, doivent progresser vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Alors, édifions-nous les uns les autres. Christ nous édifiant ultimement. On veut vivre ces deux dimensions. Nous édifions les uns les autres parce que Christ nous édifie ultimement. Je vais encore prier. Seigneur, on veut te remercier parce que depuis 2000 ans, c'est toi, c'est Jésus-Christ qui bâtit son Église. Merci parce que tu l'as fait malgré de nombreuses divisions dans l'histoire, malgré tant de fois où des responsables d'Église ont été peut-être défaillants, malgré tant de fois où des frères et des sœurs se sont déchirés. Merci parce que toi, encore et toujours, tu continues ce processus d'édification. Permets-nous de vivre cela en Église. Permets-nous de nous encourager, de nous édifier les uns les autres en ayant toujours conscience que c'est toi ultimement qui nous édifie. Change nos cœurs, change notre Église. Rends-nous toujours plus semblables à Jésus-Christ. Fais-nous progresser vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.